L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Jean-François Rode.
Bonjour Christophe.
Bonjour Sylviane Guillaume-Jeannet.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences économiques et chercheur au Centre d'études et de recherche sur le développement international de l'Université d'Auvergne, membre du conseil d'administration de l'Agence française du développement. Vous faites autorité notamment dans l'aide au développement. Et puis voilà que vous publiez Les femmes au secours de l'Église, préfacé par Anne-Marie Pelletier, un texte qu'aurait pu signer Anne Soupa ou Christine Pedotti, que vous citez d'ailleurs. Alors, vous délaissez vos études économiques pour ce livre, Les femmes au secours de l'Église. Il y avait une urgence pour vous à l'écrire, ce livre ?
Oui, absolument, il y avait une urgence parce que je pense que l'Église catholique a vraiment besoin de se renouveler. Donc, je pense aussi qu'il y a une telle diversité de positions dans l'ensemble du monde que c'est très important que des laïcs s'expriment en Europe par rapport aux expressions qui se font ailleurs, notamment en Afrique ou en Asie.
Alors, frappé, on vous ouvrira, dit le Christ. Là, on a l'impression que les femmes tambourinent à la porte de bronze du Vatican.
Absolument, oui.
Avec une volonté vraiment de s'inscrire dans l'actualité de l'Église, sachant que, et vous le rappelez dans votre livre, les femmes ont toujours été très présentes, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, autour du Christ. Et ce que vous dites dans votre livre, parce que c'est la première fois que c'est écrit autour de Saint Paul lui-même.
Je pense que ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a quand même de très bons auteurs dont je me suis inspirée, qui ont écrit sur Saint Paul.
Oui, alors, vous dites que... parce que en fait, le pétard qui a tout déclenché, c'est le rapport Siazé.
Absolument, oui.
Et donc là, vous voyez qu'il y a un vrai problème, que l'autorité du prêtre, redoublé par son caractère sacral, s'exerce sans contre-pouvoir, c'est vous qui l'écrivez. L'ordination réservée aux hommes inscrit dans la structure même de l'institution une inégalité fondamentale entre les femmes et les hommes. Donc là, vous reprenez à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis vous dites, mais comment se fait-il qu'on ait une telle inégalité dans le fonctionnement de l'Église, c'est ça ?
Absolument, oui. Et c'est vrai que le livre a aussi été déclenché par cette révélation des abus sexuels.
Mais oui.
Et j'ai lu le rapport, tellement intéressant, et qui ne dit pas directement que le célibat des prêtres est une des causes, une des raisons de cette penchant aux abus sexuels, mais qui laisse quand même supposer qu'il y a peut-être une petite relation.
Alors, quand vous citez Véronique Margron, de son livre « Un moment de vérité », vous relancez sur l'histoire de la solitude du prêtre. Je vous cite, et je la cite en même temps, « Le célibat ecclésiastique peut être un authentique chemin évangélique à condition de pouvoir y consentir vraiment, non comme une obligation imposée du dehors, en laissant s'épanouir une attention bien particulière à son rapport à la solitude, car il est une solitude nécessaire, impérative, qui construit, refait, qui permet de se rassembler intérieurement. Mais il est aussi une solitude où l'humain peut se détruire, se sentir abandonné, délaissé, ne comptant pour personne. » Et vous voyez vraiment les deux faces de cette solitude. Mais est-ce qu'elle n'est pas inscrite précisément dans la vocation du prêtre ?
Je ne sais pas si vraiment c'est inscrit dans la... Moi, je connais beaucoup de prêtres et qui, de temps en temps, vivent bien cette solitude, mais de temps en temps, non. Et le problème, en fait, c'est que avant, les prêtres étaient toujours, surtout les prêtres séculiers, ils étaient toujours plusieurs à la fois dans un endroit. Ils vivaient en collectivité, en quelque sorte, un peu comme les moines. Et puis maintenant, avec la diminution du nombre de prêtres, quelquefois, ils sont tout seuls dans un... Et maintenant, ça devient très dur. Moi, j'ai un ami prêtre... africain qui vient pour 3 ans en France, et la première année il a habité tout seul et il a trouvé ça extrêmement dur, et ensuite il a été nommé dans une autre paroisse avec un autre prêtre. Et je l'ai vu s'épanouir formidablement. D'ailleurs, je lui ai dit, est-ce que tu es heureux? Il m'a dit oui, parce que nous prenons tous nos repas ensemble. Donc, il n'y a plus ce sentiment affreux de solitude.
Jean-François Rode.
On va revenir sur le fond, évidemment, de votre livre, mais je voudrais dire à nos auditeurs que, moi, ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, c'est que c'est un livre d'argumentation, c'est un livre sérieux. Beaucoup de livres sont sérieux, mais c'est pas un livre d'humeur, c'est pas un livre de polémique.
Non, absolument.
Vous prenez, on voit bien où penche votre avis, mais vous donnez les arguments pour et contre ce que vous soutenez. Et j'apprécie beaucoup c'est un véritable dossier que vous faites. Si on veut avoir un peu le point, par exemple, de ce que les exégèses disent de l'accueil des femmes par Jésus dans l'Évangile, ou de saint Paul, on vient de Dijon, là vous avez un dossier qui reprend les bonnes études et qui fait le point. Et puis après, donc, on va reprendre les deux grandes questions que vous traitez. Et là, je voudrais dire aux éditeurs, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les arguments pour, il y a les arguments contre, et on est dans une discussion sérieuse, j'allais dire sereine, parce que c'est des sujets extrêmement sensibles, où très vite, en fait, on se dit non, il n'est pas question de faire ci, pas question de faire ça.
Et on n'est pas dans l'idéologie.
On n'est pas dans l'idéologie, on est dans un dossier. Et rien que cette démarche de faire un vrai débat me paraît très constructive.
Je suis très contente que vous disiez ça, parce que j'étais un peu choquée par certains travaux de féministes qui sont que dans un seul sens. Comme si c'était pas du tout normal que les prêtres soient célibataires ou que les femmes ne soient pas ordonnées, alors qu'il y a des bons arguments pour. Voilà. Et il faut les connaître pour pouvoir les combattre.
Voilà. En tout cas, c'est très important, effectivement, de faire la liste des arguments de manière, sensée, de manière honnête, de bonne foi.
Alors, vous nous montrez les méandres dogmatico-historiques depuis le Concile de Trente jusqu'à Vatican II, la rétractation de Paul VI, réaffirmée par Jean-Paul II, soulignée par Benoît XVI, vous tambourinez encore. C'est-à-dire que on a eu, oui, il faudrait peut-être ordonner les diacres ou ordonner des hommes mariés. On se rappelle la lettre à Tite où saint Paul dit tu trouveras un homme marié avec une table ouverte et tu en feras un prêtre, hein, quand il doit aller à Chypre. Mais ça, c'est une lecture qu'on ne lit jamais dans le canon. Cela dit, c'est au début de la lettre de Tite. Donc, vous reprenez un peu tout ça et puis vous nous montrez bien les poussées, les avancées et les reculades, c'est-à-dire une espèce d'hésitation permanente de l'Église. Vous pensez que c'est une hésitation ou vous pensez que c'est un rapport de force qui s'inscrit?
C'est un peu les deux à la fois, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des hésitations. Enfin, je pense que le problème du mariage des prêtres et le problème de l'ordination des femmes, c'est complètement différent. Ça n'a pas du tout... ça ne pose pas les mêmes problèmes, parce que le mariage des prêtres, c'est une discipline qui a été imposée par l'Église au moment du Concile de Vatican de Trente, au XVIe siècle.
Alors ensuite, oui.
Elle n'existe pas dans des églises catholiques d'Orient.
Non.
Donc, on a le sentiment qu'on pourrait revenir relativement facilement là-dessus. Au contraire, l'ordination des femmes, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même des raisons théologiques qui empêche l'ordination des femmes. Et alors, ça sera beaucoup, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus difficile d'obtenir l'ordination des femmes que le mariage des prêtres, me semble-t-il. Puis il y a un autre argument aussi, c'est que, c'est ce que dit Véronique Magron, il y a quand même beaucoup de prêtres à l'heure actuelle qui sont en concubinage. Moi, je ne me rendais pas compte, parce que là où je vis, les prêtres ne sont pas en concubinage, mais elle dit cela. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai problème.
On parlait tout à l'heure de la solitude.
Pardon, il y a un peu un problème, d'ailleurs, je dirais, du flou de la question. Parce que, bien sûr, il ne s'agit pas de violer l'intimité des gens, etc. Mais si on dit qu'il y a beaucoup de prêtres qui vivent en concubinage, moi je dirais il faut dire combien. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est dans dans quelque chose de massif. Est-ce que c'est vraiment massif? Quelque part, moi, je trouve qu'on devrait être franc, clair, parler cash, montrer que ce qu'il en est réellement. Parce que sinon, on en parlait beaucoup ces temps-ci, à part ça, de l'Afrique et de la réaction de l'Église africaine, du moins du Sud, hors de l'Afrique du
par
Nord.
Par rapport à la bénédiction des
couples. Et on dit toujours, oui, mais le clergé africain, de toute façon, c'est là. Oui, mais à force de dire des choses comme ça, générales, on met un peu la suspicion sur tout le monde. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas très correct.
Bon, alors on veut des chiffres.
Enfin, moi, je veux des chiffres, voilà.
Enfin, Véronique Magron, dans son livre, elle dit que c'est 40%, oui. Ce qui m'a semblé énorme, moi, correspondant pas à ce que je vis personnellement, parce que je connais quand même beaucoup de prêtres.
J'ai lu ce chiffre aussi. Mais vous parliez de la solitude du prêtre. J'aime beaucoup cette réplique tirée de la pièce de théâtre L'Affrontement. Le prêtre est un homme seul pour que l'homme ne le soit pas.
C'est magnifique.
C'est magnifique. Bon, et alors, en même temps, vous parlez vraiment de la place des femmes. Revenir au Nouveau Testament, je vous cite, hein, c'est réaffirmer que les ministères doivent être considérés comme un service de la communauté qui témoigne et célèbre le Christ dont elle vit. Les femmes ont leur place dans ce service. Et plus loin, vous dites, les femmes n'ont pas la même relation que les hommes par rapport à l'autorité. Ayant été longtemps dominées, elles sont plus souples dans le quotidien et plus absolues dans le respect des principes. Donc là, il y a vraiment une qualité de la femme qui devrait, je reprends votre titre, venir au secours de l'Église, Sylviane Guillaume-Jeannet.
Oui, je le crois volontiers, parce qu'il faut quand même une diversité de positions. Il faut une diversité d'actions. Et les femmes n'auraient pas la même façon d'être prêtres que les hommes, c'est sûr.
Et oui. Alors, on parlait du rapport Siazé qui a été vraiment le coup d'envoi de votre livre, qui, encore une fois, comme le soulignait Jean-François Rode, n'est pas une protestation, mais vraiment une étude, on va dire une étude sérieuse, parce que vous êtes une femme sérieuse, mais qui peut se lire vraiment, alors qui se lit très facilement. Hein, on n'a pas, c'est pas du tout un livre prise de tête. Et au contraire, c'est un livre
et ça rassemble
de
les arguments.
Absolument. Et alors, vous parlez de la question des sanctions. Puisque, je vous cite, plus troublant encore est le décalage entre les sanctions infligées aux laïcs et celles aux clercs abuseurs. Un prêtre ayant perdu l'état clérical en raison d'agressions sexuelles ne peut plus célébrer les sacrements, mais il n'est pas excommunié ni privé des sacrements, contrairement aux divorcés et remariés s'ils ne vivent pas comme frères et sœurs. Et nombreux sont les laïcs baptisés qui, en raison de ces péchés sexuels, dits actes intrinsèquement mauvais, cités plus haut, sont mis à l'index et s'éloignent de l'Église. Est-ce que violer est moins grave que la contraception, s'écrit Marie-Jo Thiel. Mais là, parce qu'on a vu les deux poids deux mesures entre les hommes et les femmes. Deux poids deux mesures entre les clergés, entre le clergé et les divorcés remariés. Enfin, au bout d'un moment, on a envie d'avoir une ligne claire.
Et c'est pour ça que personnellement, j'ai quand même été très heureuse que le pape décide qu'on puisse bénir les couples remariés.
Mais oui, parce que bénir, c'est bien dire.
Hein, voilà, exactement.
C'est dire du bien d'eux. Enfin, c'est l'inverse de maudire et du mal dire. Donc, bénir, c'est forcément accompagner de façon, je dirais, bienveillante et sympathique.
Puis quelqu'un qui se remarie, en général, c'est parce qu'il s'aime quand même.
Mais oui.
Donc, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la religion catholique. Donc, c'était un peu triste de penser qu'on les mettait à l'extérieur. D'ailleurs, on voit, quand on va à la messe, on voit des gens qui ne vont pas communier et on se dit, ah ben oui, c'est parce qu'ils sont remariés. C'est dramatique.
C'est dramatique. Alors, vous parlez...
Mais avec Maurice Laetitia, si je permets, il y a quand même une ouverture réelle à un changement de cela. Hein. Non pas, justement, on n'a pas le changement canonique, mais dans le...
Pastoral.
Il y a un changement réel pour dire que l'on peut et que l'on même on doit accueillir... accompagner, discerner et effectivement changer, donner la possibilité aux divorcés remariés de communier. Et donc, il y a eu un changement très, très clair annoncé par le pape François. Après, d'ailleurs, c'est seulement, le chapitre 7 ou 8, à la fin du tout le livre est en fait une apologie, une défense d'ailleurs magnifique du mariage chrétien, mais aussi, effectivement, une ouverture pastorale très, 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 très nette. Et on a l'impression, pour le dire franchement, là, que beaucoup de gens n'ont pas lu ce chapitre hein, et n'écoutent pas beaucoup cette ouverture que le pape François propose. Hein.
Alors, prêtre marié, femme prêtre, vous disiez que c'était deux voies vraiment différentes et que ça va être un peu compliqué aujourd'hui de faire accéder au sacerdoce des femmes. Et j'ai été très étonné en lisant votre livre, parce que je ne connaissais pas ces mots de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, sur la fin de sa vie, dans son agonie, dit « Le bon Dieu va me prendre à un âge où je n'aurai pas eu le temps d'être prêtre ». Si j'avais pu être prêtre, ce serait à ce mois de juin, à cette ordination, que j'aurais reçu les saints ordres. Je mourrais avant d'avoir exercé mon ministère.
Oui, j'ai été, comme vous, très étonnée de lire ça. C'est un livre que je cite, qui me l'a ouvert à cette connaissance.
Et vous concluez ce paragraphe, comme pour Thérèse, le refus d'un sacerdoce féminin est une souffrance pour les femmes d'aujourd'hui qui ont une vocation d'apôtre. La porte leur est-elle définitivement fermée? Point d'interrogation. Vous pensez que, au bout d'un moment, vous êtes tellement de femmes à tambouriner à la porte de bronze que, au bout d'un moment, ça va s'ouvrir, non?
Ben j'espère, oui, un jour.
Oui.
Mais je pense que ce sera long quand même encore.
Pourquoi?
Je crains que ce soit long encore.
Pourquoi? Parce que, à vous lire, il y a pas de problème théologique.
Il y a des problèmes théologiques, si, à l'ordination des femmes. Il y a des obstacles théologiques.
L'obstacle théologique,
c'est que les apôtres étaient tous des hommes et qu'on n'imagine pas que les prêtres sont la suite des évêques, enfin, sont des adjoints des évêques, et les évêques représentent les apôtres, et les apôtres étaient tous des hommes.
Oui,
donc,
ils étaient tous juifs,
par exemple. Du point de vue théologique.
Ils étaient tous juifs.
Absolument, d'ailleurs, je le cite.
Et le pape, enfin le premier, Saint-Pierre, était marié. On a décidé de faire autrement. Peut-être qu'on pourrait décider de faire autrement.
Absolument, mais enfin bon, c'est l'argument de la tradition est quand même ce qui empêche cet obstacle. Et c'est intéressant parce que j'ai regardé aussi, parce qu'il y a M. Forestier qui dit que c'est une question qu'on ne peut traiter que dans un mouvement œcuménique. Alors, c'est pour ça que j'ai été regarder ce que faisaient chez les orthodoxes et chez les protestants. Chez les orthodoxes, les prêtres sont mariés, mais il n'y a pas de femmes qui sont ordonnées pour l'instant.
Oui, oui. Ouais.
Alors qu'au fond, ça serait plus facile pour eux d'avoir des hommes mariés, des femmes prêtres, je veux dire.
Oui.
Ce serait plus facile. Ce serait plus facile parce que ils ont une conception différente de l'Église et du prêtre, et notamment de l'Eucharistie. Ça m'a beaucoup intéressée. C'est-à-dire que pour les catholiques, le prêtre, quand il prononce les paroles sacramentelles, il le fait au nom du Christ.
Et il devient le Christ.
Il se croit, c'est ce que dit le cardinal Sarah, ce qui est un peu gênant, le Christ lui-même, ce qui n'est pas vrai. Il n'est pas le Christ, c'est le Christ qui agit à travers lui, mais il n'est pas le Christ. Mais quelqu'un comme le cardinal Sarah dit, c'est extraordinaire, je suis le Christ. Ben non, à mon avis, il n'est pas le Christ. Alors que chez les orthodoxes, c'est pas du tout ça, c'est très intéressant. Le prêtre, quand il prononce la consécration, il le fait au nom de l'Église, au nom des paroissiens qui sont là avec lui, et pas du tout au nom du Christ. Et c'est le Christ, il le présente au contraire au Christ, ce pain que le Christ va transformer en sa chair.
Ouais. Mm-hmm.
Mais
ça va très loin, parce que ça rejoint la question de la présence réelle. C'est-à-dire, est-ce que, comme les protestants, on considère, parce que Jésus nous l'a dit, quand vous êtes plusieurs assemblés, en mon nom, je suis au milieu de vous, donc on crée une communauté et le Christ est là. Ou bien on peut être tout seul dans une église à consacrer le pain et le vin et le Christ est là. Donc toute cette question qui est très compliquée, parce qu'on part du siaisé, ensuite de la solitude des prêtres, ensuite de faut-il ordonner des hommes mariés, ensuite faut-il ordonner des femmes, et finalement on en revient à la question de la présence réelle. Donc si on tire le fil et qu'on va jusqu'au bout, au bout d'un moment, c'est plus qu'une question sociétale, c'est une vraie question, non pas de dogme, mais de foi.
Oui, enfin, c'est une question théologique. C'est pour ça que c'est difficile.
Et parce que c'est au cœur du réacteur, évidemment. Alors, vous revenez sur l'image de la femme. Et effectivement, on se souvient de la colère de Christine Pedotti devant une phrase de Jean-Paul II qui disait que la femme a deux voies, la virginité ou la maternité. Alors effectivement, ça se rejoint dans la Vierge Marie. On se souvient du culte que Carole Wojtyla avait pour la Vierge Marie. Mais il n'y a pas que ces deux voies de la virginité et de la maternité. Et vous écrivez, l'image positive de la femme est le plus souvent celle d'une mère ou d'une vierge, précisément. Donc il n'y a pas de troisième voie pour une femme.
Oui.
Telle que l'Église nous l'enseigne.
Et c'est très curieux parce que, pour expliquer ça, on dit, prenez l'exemple de Marie.
Ben oui.
Et Marie, on dit toujours, ça a été une femme discrète, essentiellement mère, etc.
Soumise.
Or, c'est pas vrai du tout.
Pas vrai.
C'est pas vrai du tout parce que, au contraire, ça a été vraiment quelqu'un qui a fait avancer la théologie. Quand on pense qu'aux noces de Cana, c'est elle qui dit à son fils, allez, vas-y, là maintenant tu attends trop, il faut absolument que tu te manifestes. Mm. Quand son fils tout jeune s'en va et qu'elle le cherche pendant 3 jours, quand il arrive, c'est elle qui le morigène en lui disant, mais non, tu ne dois pas faire ça à tes parents. Donc,
elle était sévère.
Elle est, et puis, après la mort du Christ, elle est avec les apôtres. Alors, on dit elle n'était pas nommée apôtre, c'est vrai, on a cherché quelqu'un d'autre qui était inconnu au lieu de la nommer, elle, apôtre, mais elle n'en avait pas besoin. C'est parce qu'elle n'en avait pas besoin, elle était déjà au centre de... Elle avait donné le Magnificat, qui était quelque chose d'extraordinaire, qui disait déjà toute la foi de l'Église. Donc, oui. Elle l'avait proclamé, toute jeune.
Oui, et justement, vous disiez tout à l'heure que les apôtres étaient tous des hommes et que les disciples étaient tous des hommes. Mais quand on lit bien l'Évangile, on dit toujours « et les femmes les accompagnaient ». Et les femmes, elles sont toujours là. C'est à Marie-Madeleine qu'il ressuscite en premier. La Vierge Marie est au pied de la croix, comme Marie-Madeleine. Les apôtres, sauf Saint-Jean, mais ils ne sont pas là. Et ce sont les femmes qui arrivent au tombeau. Et ce sont les femmes qui sont toujours très présentes. Donc, dans la rédaction à l'époque, je pense que l'auteur ne mentionnait pas les femmes parce que ça allait de soi. Mais finalement, elles sont aussi apôtres que les apôtres, faut croire.
Ah ben, tout de même, dans les évangiles...
Là, je fais hurler tous les auditeurs.
Non, mais de toute façon, voilà, dans le livre de Madame Guillaumont, Jeannet, qui est avec nous, merci d'être là. Justement, il y a tout le dossier, et pour les évangiles, et pour saint Paul aussi. Et la manière dont saint Paul parle des femmes des premières communautés chrétiennes. Le parcours historique que vous faites est très intéressant et synthétise bien tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc, saint Paul lui parle de... emploie le mot apôtre pour une femme.
Oui. Ben dans l'évangile, quand même, on parle beaucoup, beaucoup des femmes. Enfin, on ne cache pas que le Christ est apparu en premier à Marie-Madeleine. Et oui. Que c'est à elle qu'il lui a expliqué qu'il retournait au Père pour qu'elle, elle puisse rester dans le monde et qu'il fallait qu'elle explique donc aux disciples et aux apôtres. Et quand Jean et Pierre sont arrivés au tombeau, le Christ ne leur est pas apparu, contrairement à Marie-Madeleine. C'est à Marie-Madeleine qu'il
Absolument.
Est apparu et qu'il a expliqué quel était son nouveau rôle. Donc c'est assez extraordinaire quand
donc,
on
la
y
place,
pense.
La place des femmes dans l'Église, vous rappelez qu'en 2015, 3 laïcs sur 4 travaillant pour l'Église sont des femmes. Donc il est peut-être temps que officiellement les femmes aient une place officielle, puisque les femmes sont au secours de l'Église. Sylviane Guillaumont-Jeannet, c'est ce que vous publiez aux éditions jésuites. Mais Jean-François Rode, avant que vous nous disiez quels sont les livres que nous allons désirer sur les tables de la procure...
Bravo, Costa. Avant, il disait un mot affreux.
Vous avez encore une question.
Non, juste pour dire précisément à nos auditeurs que même ceux qui sont... un peu vent debout contre l'idée que les prêtres, on puisse ordonner des prêtres mariés, ou à plus forte raison encore qu'on puisse ordonner les femmes prêtres, je pense que votre livre, en fait, est vraiment utile, parce que, justement, c'est pas un livre d'excès, c'est un livre de raison, c'est un livre de discussion, et je pense qu'après, on peut, même si on a des avis différents, on peut échanger et continuer à creuser la question. Parce que ce qui nous fait un peu quelquefois problème, c'est que on se renvoie en disant pas question, vous n'êtes plus catholique si vous pensez ça.
Ou, et, c'est voilà. Et c'est un livre apaisant dans un dialogue passionné. Alors quels sont les livres que voilà. Nous allons désirer ?
Alors je change de sujet, mais je signale un très beau livre très intéressant de Emmanuel Godot qui s'appelle Les passeurs de l'absolu, sous-titré Les grands écrivains et Dieu. Et c'est un livre qui part de la conviction que il y a des écrivains dont la vocation principale est de faire comprendre à tous les humains, tous leurs lecteurs, que la vie est une formidable expérience spirituelle.
Enfin.
Et qu'en fait, on est toujours, dans la vraie bonne littérature, on est dans les grands enjeux existentiels. Et donc là, il prend 25 auteurs, 5 ou 6 pages, 7 à plus, et il montre comment ils se rapportent à Dieu. Alors,
donc c'est une anthologie.
Une anthologie de lecture. Hein,
oui.
Et alors qu'effectivement, il cite beaucoup les textes, ça donne envie de relire les textes. Mais ça va de Pascal à Sylvie Germain, de Solzhenitsyn à Saint-Exupéry, et Tillsum.
Redonnez-nous le titre.
Ça s'appelle Les passeurs de l'absolu, les grands écrivains et Dieu. Alors Emmanuel Godot va
chez qui
C'est publié chez Arthège. Merci, c'est une bonne précision. Et donc, Emmanuel Godeau, d'ailleurs, va être un des conférenciers de Notre-Dame cette année.
Oui.
Et je trouve que ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de grands auteurs. Tout le monde nous a dit, c'est formidable. C'est Flannery O'Connor, c'est formidable. Et moi, par exemple, je n'ai jamais lu. Et j'hésite à le faire. Eh bien, en lisant ces quelques pages sur Flannery O'Connor, tout d'un coup, on se dit, ah bah tiens, là, cette fois, je me décide, je vais lire quelque chose.
Merci Jean-François Rode, merci Sylviane Guillaume-Jeannet pour Les femmes au secours de l'Église, publié aux éditions Jésuites. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi, nous irons au théâtre pour célébrer Jacques Prévert, imaginez-vous, au théâtre de Poche-Montparnasse, un spectacle éblouissant et plein de poésie et de tendresse. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.